Hello tout le monde, bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Rien à voir. Alors aujourd'hui, avant de commencer, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui sont arrivées après la publication du dernier épisode. Vous avez été nombreux et j'ai eu pas mal de retours aussi de votre part. Du coup, merci beaucoup, ça me motive vraiment à continuer et voilà, c'est à peu près tout. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, qui sont en train d'écouter cet épisode et qui n'en avaient jamais écouté avant, Rien à voir, c'est un podcast dans lequel je, aka Olga, 27 ans, vous parle de sujets qui, selon moi, peuvent concerner pas mal de monde. J'essaye un peu de vous donner ma vision des choses et je me dis que peut-être que ça peut résonner en certaines personnes ou d'une certaine manière ou d'une autre, peut-être vous aider un petit peu. Voilà. Et du coup, cette semaine, j'ai décidé de vous parler de l'échec et de la peur de l'échec. Tout simplement parce que c'est pas du tout la première fois que j'essaie d'enregistrer cet épisode. Ça fait même des semaines et des semaines qu'à chaque fois, je me mets derrière mon micro, je commence à parler et j'ai peur. J'ai peur que tout ce que je raconte, ce soit beaucoup trop fouillé, que vous compreniez pas ce que je veux dire. Non pas que vous soyez bête, bien au contraire, mais juste que mes propos soient vraiment trop fouillis, incompréhensibles, que du coup l'épisode ne serve à rien et que vous finissiez par vous désintéresser et par partir et arrêter de m'écouter. Et je me suis dit, mais en fait, concrètement, le gars, là, t'as peur de l'échec. Et pourtant, je pense pas être une personne qui a vraiment peur de l'échec en règle générale. Mais pourtant, là, c'est ça. Et c'est ça parce que je me fais un peu dans ma tête ce que serait, enfin, ce qui est selon moi, un épisode réussi. Et du coup, je projette toutes les raisons pour lesquelles je vais échouer. Voilà. Et donc, je pensais que ça pouvait être intéressant de parler de ça aujourd'hui, de voir un peu déjà concrètement qu'est-ce que c'est que l'échec, d'où ça peut nous venir cette peur. Et puis après, comment s'en défaire quand même, parce que c'est un peu le but de mon podcast, c'est d'essayer d'aider, de donner des petits tips, comme avec la procrastination, pour avancer. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'échec? Du coup, je me suis posée et je me suis dit, finalement, l'échec, ça n'existe que en opposition à la réussite. Si, pour moi, la réussite, c'est de faire telle chose, telle chose, telle chose, et que je n'arrive pas à faire telle chose, telle chose, telle chose, du coup j'ai échoué, du coup c'est un échec. Mais, à contrario, si je ne considère pas quelque chose comme une réussite, le fait de ne pas l'atteindre ne sera pas du tout un échec. J'ai dit n'importe quoi, mais il y a des gens pour lesquels la réussite, ça va être de monter leur entreprise à 25 ans, ou d'avoir une maison, un chien, je ne sais quoi, aux caisses. Moi, je ne considère pas du tout ça comme des réussites. Et du coup, le fait que j'ai 27 ans et que j'ai fait aucune de toutes ces choses, je m'en fiche. Vraiment, je m'en contrefiche. Et je pense que c'est un peu la première chose importante à retenir, c'est que des fois, on a l'impression que les choses sont en elles-mêmes soit un échec, soit une réussite. Et que nous, du coup, on est nul de pas atteindre cette réussite et du coup d'échouer pour ces choses-là. Alors que, en fait, tout ça, c'est que des histoires d'étiquettes. Un petit peu comme ce que j'expliquais dans l'épisode 3 sur la mort, quand je parlais un peu de la morale. Mais en fait, c'est nous, en tant qu'individus et en tant que société, qui posons des étiquettes sur les choses et qui disons, oula, je ne sais pas. Qui disions, peut-être, vraiment je ne sais pas, je bug, ok, telle chose, c'est une réussite, telle chose, du coup, c'est un échec, enfin plutôt telle chose, c'est une réussite et ne pas l'atteindre, c'est un échec, ou telle chose, elle est bonne, ou telle chose, elle est mauvaise. Mais vraiment, je le répète, c'est que des étiquettes. Et je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez un peu ce que je raconte. En gros, quand j'étais au lycée, ma grande sœur était passée avant moi, elle avait eu le bac, elle l'avait eu avec mention très bien, je crois qu'elle avait genre 17,5 de moyenne, qu'elle avait 19 en maths, etc. Et moi, du coup, ça ne m'intéressait pas du tout de faire la même chose. Et donc, moi, mon objectif, c'était juste d'avoir le bac pour ensuite passer à autre chose, quoi, pour continuer dans ma vie et avancer. Et j'ai eu, je crois, 13,5 de moyenne, j'ai eu la mention assez bien, Et c'était une réussite. Enfin, dans ma tête, en tout cas. Mais si je m'étais dit, OK, je veux la mention très bien, je vais avoir 19,5 de moyenne, je ne sais quoi aux caisses, ça aurait été un échec. Et je pense que ça, en fait, ça monte très, très bien à quel point tout ça, bah, c'est dans notre tête. Voilà, j'ai l'impression que je dis ça tout le temps, mais c'est pas hyper faux. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont dans notre tête et on a l'impression que ce sont des choses qui existent, mais c'est juste nous, en fait, qui peuvent choisir, qui pouvons choisir où placer ces petites étiquettes. Voilà, tout simplement. Après, je pense que la deuxième chose à avoir en tête quand on parle de l'échec et de la peur de l'échec, c'est un peu que quand on a peur de l'échec, on n'a pas juste peur de l'échec. On a peur de l'échec parce qu'on a peur du jugement et on a peur d'être jugé pour notre échec. Ce qui fait qu'on a autant peur de l'échec, c'est parce que toute notre vie, depuis qu'on est enfant, on nous dit qu'il faut réussir. Et à l'école, les mauvais élèves, ceux qui ne réussissent pas, ils sont punis, ou en tout cas, ils sont montrés du doigt, et si on ramène des mauvaises notes à la maison, on est puni. Et donc, il y a ce truc qui s'inscrit en nous dès notre plus tendre enfance, que je vais être puni et que je ne vais pas être aimé, ou qu'on va... Enfin, pas forcément pas être aimé, mais en tout cas, pas être accepté par les autres si je ne réussis pas. Du coup, ça fait quoi ? Bah, ça fait que ces enfants à qui on dit ça, ils grandissent, ils deviennent eux-mêmes des adultes, ils deviennent parfois des parents, et ils vont avoir tellement grandi dans ce truc, enfin dans cette peur de ne pas être accepté par la société et du coup de réussir à tout prix, qu'ils vont vouloir en fait tout simplement protéger leurs enfants et leur dire la même chose. Ils vont leur dire « réussis à l'école, réussis dans tout ce que tu entreprends, réussis, réussis », parce qu'ils ont peur que leurs enfants eux-mêmes, à leur tour ensuite, soient en échec et donc rejeter la société. Et ça me fait penser à une anecdote, c'est pas trop une anecdote, mais au fait que moi, quand j'étais petite, on n'arrêtait pas dans ma famille de me pointer du doigt parce que j'étais trop grosse. Et j'avais 5 ans, et moi je m'en fichais. Enfin, j'avais 5 ans. Au début, quand ça a commencé, j'avais 5 ans, et je m'en fichais, moi, de base. Enfin, j'étais très bien, j'étais une enfant, contente, joyeuse, tout ce que vous voulez. Et moi, on me disait, oh, les gars, t'es trop grosse, etc., etc. Et quand j'avais 10 ans, je me rappelle de mon père qui, en gros, me pose un espèce d'ultimatum. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, en me disant... Écoute, Olga, t'as 10 ans, tu vas rentrer dans l'adolescence. Donc, en fait, soit tu perds le poids maintenant que tu as en trop, soit tu vas le garder pour toute ta vie et tu seras grosse pour toute ta vie. Et il m'avait dit, après, tu peux être grosse, hein, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est maintenant ou jamais, quoi. Alors, moi, j'étais un peu en mode grosse, c'est-à-dire l'insulte qu'on me lance depuis des années et des années. Enfin, évidemment, quand j'avais 10 ans, pour moi, grosse, c'était une insulte parce qu'on m'avait insulté en fait de ça. Et j'avais absolument pas envie qu'on m'insulte toute ma vie. J'avais pas envie de ça. J'avais bien envie d'être acceptée pour le coup et aimée et pas rejetée, quoi. Et du coup, je me suis dit, OK, bon, on va commencer à se restreindre. J'avais 10 ans et c'est comme ça qu'ont débuté 15 ans de troubles du comportement alimentaire. Et puis, des années plus tard, j'entends une conversation entre mon père et ma petite sœur, et il parlait de ça. Enfin, il parlait du fait que, en gros, mon père avait tendance à nous dire quand on était petite qu'on était trop grosse, mes sœurs et moi. Et mon père disait « Non, mais moi, j'avais aucun problème avec le fait que vous soyez grosse. Moi, je vous aimais comme ça, et je vous aurais aimé même si vous aviez été grosse. » Et si je vous ai dit ça, c'était uniquement parce que la société n'accepte pas les gros, et que moi, je voulais que vous soyez accepté par la société. C'est tout. Et moi, du coup, j'ai grandi avec l'idée que être mince, c'était réussir, et être gros, c'était échouer. Juste parce que on m'avait dit ça, et qu'en plus de ça, il n'y avait pas que mon père dans l'histoire, mais j'ai grandi dans une société extrêmement grossophobe, parce que je suis quand même née en 1995, donc vraiment les années 2000, on n'est pas du tout dans le truc body positive et tout, quoi. Et voilà. Mais c'est des années plus tard, on considère pas du tout, enfin, on considère beaucoup moins que être mince, c'est une réussite ou être grosse, c'est un échec. En tout cas, je l'ose espérer. Voilà, je pense que de ce côté-là, les choses ont un peu avancé. Mais Mais c'est pour dire que voilà, c'est vraiment des étiquettes qu'on se transmet et qu'on peut arrêter de se transmettre si on choisit de dire non, c'est pas une réussite d'être mince, les gars, c'est pas une réussite d'être mince, c'est pas une réussite d'être cadre, c'est pas une réussite d'avoir une maison à 30 ans. C'est nous, en fait, qui pouvons décider d'où on met les étiquettes. Et si ensuite on vous juge parce que vous n'avez pas fait ce que, pour le commun des mortels, est une réussite, on s'en bat les couilles. Vraiment, c'est... on s'en fiche. On s'en contrefiche. Parce qu'en plus de ça, moi, non seulement je ne me juge pas pour mes échecs, en tout cas, ouais, en règle générale, je ne me juge pas pour mes échecs, parce que je me dis, mais en fait, tes échecs, Olga, c'est la preuve que tu as essayé. Et moi, j'ai envie d'accumuler les échecs dans ma vie. Genre vraiment, j'ai envie d'avoir une liste d'échecs à la fin de ma vie monumentale. Parce que ça prouvera que j'ai tout essayé. En tout cas, que j'ai essayé plein de trucs. Et quand on essaye, bah, on n'a pas de regrets. Et au moins, bah, on peut avancer. En fait, le truc, c'est que moi, je vois un peu l'échec comme ça. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, je ne me dis pas que c'est moi qui suis nulle ou je ne sais pas quoi. Je me dis juste, en fait, ce n'est pas fait pour moi. J'ai un peu l'impression que la vie, c'est comme avancer à tâtons et ne pas trop savoir qu'est-ce qui est fait pour soi et rechercher un peu sa voie, rechercher un peu ce qui ferait qu'on pourrait être heureux, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est moins bon. Et on recherche ça, et je parle d'un point de vue professionnel, mais pas que. On recherche un petit peu notre place finalement dans le monde. Et chaque échec, c'est nous qui essayons de prendre un chemin et l'univers qui dit « Non, c'est pas ton chemin. » Bon, là, ça part un petit peu en métaphysique, mais je le vois vraiment comme ça. Et du coup, chaque échec, je me dis « Ok, bah, ok, donc c'est pas par là que je dois aller. » C'est juste ça. C'est juste pas par là que je dois aller. Parce qu'au final, un échec, il nous dit pas qu'on est nul. Un échec, il nous dit « Tu pensais que ça allait être pour toi. Tu pensais que ta voie, c'était de faire telle ou telle chose. Et si ça marche pas, et je tiens aussi à préciser que quand je parle d'échec, je suis pas en train de dire genre, tout premier échec, il faut tout abandonner et se dire que c'est pas pour soi. Je parle d'une fois qu'on a quand même un minimum persévéré dans la chose, quoi. Et bah, j'ai totalement perdu le fil de ma phrase. Mon Dieu. Mais bref, je vois un peu les choses comme ça. Et je me dis d'ailleurs que c'est hyper important de laisser les gens échouer. De laisser les gens autour de nous, que ce soit dans des métiers ou dans des relations avec les gens. Même si nous, on a l'impression que ça va pas le faire, que c'est pas pour lui ou je ne sais quoi au caisse. Moi, je laisse les gens qui m'entourent aller droit dans le mur. Parce que il y a que comme ça, en fonçant dans le mur et en se le prenant en pleine tête, qu'on comprend réellement que c'était pas pour nous et qu'on peut faire le deuil un petit peu de cette idée qu'on avait. Je vais donner des exemples pour que ce soit un tout petit peu plus concret. Si vous êtes parent et que vous avez un enfant qui vous dit « Papa, maman, moi je veux être n'importe quoi, chanteur. Voilà, je veux être chanteur. » Et que vous, vous vous dites « Oula, sûrement que ça va pas le faire du tout parce qu'il chante pas bien, notre gamin. » Bah, laissez-le. Genre, laissez-le aller au bout du truc. Parce que, comme ça au moins, il verra par lui-même que, en fait, c'est pas fait pour lui. Si vous l'en empêchez, il va grandir. Enfin, je dis parce qu'il verra que c'est pas fait pour lui. Si ça se trouve, c'est fait pour lui, et tant mieux. Du coup, bon, bah, réussite, super. Si c'est pas fait pour lui, au moins, il pourra s'en rendre compte de lui-même. Parce que sinon, il va grandir toute sa vie en se disant « Ok, je suis banquier, mais en fait, je voulais être chanteur. Et c'était ça, ma voix, et c'est là-dedans que j'aurais été heureux. » Et donc, grandir avec ce truc de « Si je suis pas heureux, c'est parce que j'aurais été heureux là-bas. » J'aurais été heureux dans cette voie là-bas. Si il se prend le mur, il voit de lui-même que oula non, en fait, c'est pas pour moi, et il passe à autre chose. Et pour moi, c'est ça l'échec. C'est le fait de pouvoir faire le deuil sur une espèce d'idée qu'on avait, qu'on se faisait de nous-mêmes finalement, pour pouvoir ensuite assez rapidement passer à autre chose et avancer, et par élimination, finir par peut-être plus ou moins se comprendre et plus ou moins se connaître et plus ou moins comprendre ce qui nous rend heureux et ce qui nous correspond. Et c'est un peu comme ça que j'ai toujours, d'une certaine manière, évolué. Parce que si on regarde mon CV, je pense que les gens, ils doivent se dire, Bah en fait, la meuf, elle a enchaîné les échecs. Genre vraiment. Parce que j'ai fait un million de trucs, que ce soit au niveau de mes études ou même professionnellement. J'ai été dans plein de domaines différents. Et pour les gens, ça doit vraiment avoir ni queue ni tête. Mais moi, c'est juste que j'ai tout essayé, en fait. Et je me disais, ok, je pense que j'aimerais bien... Enfin, quand j'étais au lycée, je me disais, ok, bah... De toute façon, j'ai toujours eu ce truc de sauver le monde. Pour celles et ceux qui ont déjà écouté les autres épisodes, vous le savez. Et du coup, je me disais, ok, bon, bah, pour sauver le monde, au pire, j'ai qu'à devenir, je sais pas, ingénieur. Alors, sauver le monde en termes d'écologie, hein, parce que sinon, vous n'allez rien comprendre avec le rapport avec ingénieur en énergie renouvelable. Donc, je fais un bac S. Et puis, je me dis, non, j'ai testé les sciences. Et honnêtement, je ne me vois pas faire des sciences toute ma vie. Je ne suis pas du tout scientifique. On passe à autre chose. Ensuite, je me dis, ok, bah, j'ai qu'à faire... J'ai qu'à travailler au pire dans tout ce qui va être ONG, etc., etc. Donc, je fais les études nécessaires pour arriver en école de commerce. Je pars 3 mois aux Philippines dans un espèce de village où il n'y avait pas d'eau courante, pas d'eau potable. Bref, c'était un peu la, littéralement la misère, voilà. Et puis, je me rends compte qu'en fait, j'avais un peu l'impression d'être cette personne capable de vivre dans des conditions extrêmes pour pouvoir sauver les autres, et que le fait d'être directement en contact des populations les plus démunies, ça allait faire que j'allais me sentir enfin utile et enfin heureuse. J'y vais, et là, je me mange un mur, et je me rends compte que non. Que non, que c'est pas du tout ça qui me correspond, parce que je suis pas bien du tout, en fait. Et là, il a fallu que je fasse le deuil de la personne que je pensais être, en fait. Moi, je pensais être une warrior. Je pensais être capable de ça, et je pensais que c'est ça qui allait me rendre heureuse. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Et au final, c'est le fait d'y être allée, c'est le fait d'avoir confronté mon imaginaire, d'une certaine manière, ou en tout cas, ma vision que j'avais de moi-même avec la réalité, qui a fait que j'ai pu comprendre que ça n'allait pas me correspondre. Et au final, là, on est totalement sorti de ce truc de j'enchaîne les échecs, du coup, je suis nulle, j'arriverai jamais à rien dans ma vie, je suis totalement perdue. Pas du tout. Quand on a cette espèce de vision totalement différente sur l'échec et qu'on a juste conscience, ou qu'en tout cas, on choisit de le prendre juste comme une espèce de révélateur de nous-mêmes, bah, ça change tout. Ça change absolument tout. Et après, chacun a un peu sa vision de la vie. Mais moi, je pense qu'une vie réussie, c'est une vie dans laquelle on a été heureux. Voilà, moi, le sens de ma vie, c'est d'être heureuse, tout simplement. Et pour être heureux, il faut se trouver. Il faut comprendre qui on est. Il faut comprendre quelle est notre voie. Enfin, quelle est notre voie? Il y a énormément de voies possibles, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit trouver notre voie et ensuite, voilà. Mais d'une certaine manière, plus on va comprendre qui on est et plus on va pouvoir évoluer nous-mêmes en harmonie avec le monde qui nous entoure. Je me rends compte que c'est extrêmement développement personnel tout ce que je raconte. Je ne sais pas pourquoi je suis à son issue, bref, c'est ridicule. Mais j'ai l'impression que par peur de l'échec, il y a énormément de personnes qui vont continuer à faire quelque chose qui ne leur plaît pas. Parce qu'ils se disent, oui, mais si j'arrête ma licence, si j'arrête ce travail, bah ça voudrait dire que j'ai échoué et du coup que je suis nulle. Mais on s'en fiche, genre vraiment, on s'en contre-fiche de savoir. Tu peux pas savoir dès le début quel est le métier qui va te correspondre, tu peux pas savoir dès le début quel est qui tu es, en fait, tout simplement. Donc vraiment, les gars, on s'en fiche que vous arrêtiez votre licence au bout de 2 mois ou que vous vous tapiez 4 ans de médecine pour ensuite vous rendre compte que ce n'était pas fait pour vous. Il n'est jamais trop tard pour passer à autre chose. Et au plus tôt, vous aurez compris que ce n'est pas un échec que d'avoir tenté quelque chose et que cette chose n'est pas débouchée sur ce que vous pensiez être, au plus tôt vous allez pouvoir faire le deuil et passer à autre chose. Et c'est là où on en revient un peu à ma définition très personnelle de l'échec, qui est, enfin d'ailleurs, pas si personnel, parce que je suis allée regarder un peu les étymologies, l'étymologie, les origines du mot échec. Et en gros, l'échec ne vient pas du verbe échouer, ça vient du jeu des échecs. Et en perse, je sais pas pourquoi je me prends à raconter toutes ces histoires, mais en gros, ça vient du perse Shah Mat, qui veut dire le roi est mort, et donc du moment aux échecs, où le roi, il a plus de possibilité de déplacement, il est bloqué, et donc il est mort. Et souvent, on a un peu ce truc de un échec, c'est une espèce de tentative échouée d'une action. Mais si on reprend du coup l'étymologie de ce mot, l'échec, c'est quand il n'y a pas d'action, quand on est bloqué et qu'on ne peut plus agir. Donc finalement, à partir du moment où, quand quelque chose ne se déroule pas de la manière dont vous l'avez pensé et que vous rebondissez et que vous passez à autre chose, bah, c'est jamais un échec. Et le seul échec, au final, pour moi, c'est quand on arrête d'agir. Et je pense que c'est parce que j'ai été, comme je l'avais déjà dit dans l'épisode de la procrastination, dans une période de ma vie où j'étais en dépression profonde et j'étais dans l'inaction la plus totale. Je pouvais plus rien faire. J'étais bloquée, avec cette peur que peu importe ce que je commence et peu importe là où j'aille, ça allait être un échec. Et du coup, j'étais totalement bloquée en me disant « En fait, si je fais ça, ça va pas marcher. Si je fais ça, ça va pas marcher. Et il faut que je fasse la chose qui marche. » Et du coup, je faisais rien. Non, n'arrêtez jamais d'agir. Si vous êtes tout le temps là, en train d'essayer, et que ça marche pas, et que c'est pas grave, et on passe à autre chose, si on est toujours là-dedans, on n'est jamais dans l'échec. Et si je reprends le tout début de l'épisode, là, quand je parlais de mon podcast, bah en fait, au final, Olga, je me dis « Écoute, essaye, fais un épisode, essaye de voir si ça marche, si ça marche pas, et au pire, si ça marche pas. » Genre au pire, si là, je fais un épisode et les gens, ils disent « Ouais, pff, c'est chiant, ça nous parle pas », et que les gens, ils arrêtent de m'écouter. Et au pire, quoi? Bah au pire, ça veut dire qu'il faudra que je fasse le deuil de ça. Ça veut dire que peut-être que finalement, le podcast, c'est pas fait pour moi. Peut-être que ça me correspond pas, et que c'est l'univers qui, gentiment, est en train de me dire « Non, Olga, genre, c'est pas ça. C'est pas ça que tu dois faire. C'est pas ça dans lequel tu vas t'épanouir. Et c'est pas la fin du monde. » Et au pire, à la fin de ma vie, je pourrais me dire « Bon, bah alors, j'ai essayé de faire des podcasts, ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai essayé d'écrire un livre, ça n'a pas marché. Ensuite... » Mais ça reste en plus des expériences de vie. Et je pense qu'on oublie à quel point la vie, c'est un espèce d'essai géant. À aucun moment, il y a quelqu'un qui va dire « Bingo, c'est bon, tu as atteint je ne sais quoi ou qu'est-ce. » Non, la vie, c'est juste on est là, et on essaye, et on est là, et on essaye. Et de toute façon, la seule issue, c'est la mort. Et tout ce qu'on fait entre, c'est essayer. Donc voilà les gars, je pense que je vais m'arrêter là et que je vais vous donner rendez-vous dans 2 semaines parce que oui, ça y est, j'ai décidé de publier régulièrement, de mettre un petit peu un coup de pied aux fesses. Et donc je vais publier tous les 2 dimanches. Du coup là, on est le dimanche 19 mars, je pense, au moment où je publie. Je vais vérifier sur mon petit calendrier. C'est ça. Et du coup, on va se retrouver le dimanche 2 avril. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Au pire, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est comme ça. Et si jamais vous avez envie de, je sais pas, de m'envoyer vos retours ou juste de me soumettre des idées de thèmes ou de sujets pour des prochains épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram qui est Hâte, rien à voir, podcast, tout attaché. Et on se retrouve dans pas trop trop longtemps pour un prochain épisode. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et des bisous, passez une bonne journée. Et puis voilà, ciao!